Bien, eh bien, le séminaire ne pouvait pas mieux commencer qu'avec une présentation d'André Vaucher, qu'on ne présente pas, et chacun sait quel grand savant il est. André Vaucher est ancien. Bon, il a passé la moitié de sa vie à Rome, où il a été. Naturellement, bon, il est normalien, il a tous les sacrements quand ça s'impose. Il a été de l'école de Rome. Il a été directeur des études médiévales à un âge très tendre à l'école de Rome. Il y est revenu comme directeur et était un très grand directeur de l'école de Rome. Et il est maintenant mon confrère. Enfin, je suis devenu son confrère à l'Académie des inscriptions. Et André Vaucher est un très grand historien de la spiritualité et de la vie religieuse au Moyen-Âge. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent ces livres, au moins certains de ces livres, « La sainteté en Occident au dernier siècle du Moyen-Âge »,« Les laïcs au Moyen-Âge », on saute énormément, les volumes, les trois volumes ont été responsables dans l'histoire du christianisme, le dictionnaire du Moyen-Âge qu'il a dirigé, et le dernier de ces livres me pardonnera de ne pas énumérer tout, ce serait à la fois fastidieux et trop formel, mais ce grand livre sur François d'Assise chez Fayard en 2009, qui a tout de suite été naturellement remarqué par tout le monde comme un livre extraordinaire et qui a été deux fois couronné par un prix à Provins, puis par le prix Chateaubriand, qui n'est pas rien, récemment. Et c'est un livre extraordinaire, non seulement parce que sur un sujet si difficile, si étudié, sur un personnage si difficile à saisir, sur un mouvement si complexe que le franciscanisme, eh bien la mise au point est parfaite, lumineuse et nouvelle, mais aussi parce que il traite de François, puis de l'image de François et de ce qu'est devenu François à travers ses successeurs et ses disciples, ce qui n'est pas la même chose, en séparant bien, en montrant bien chaque fois comment les choses ont évolué et pourquoi. Et dernier point, et ce n'est pas le moindre, c'est qu'il est extraordinairement difficile d'écrire un livre sur un saint. Et particulièrement, c'est difficile pour un historien, parce que si l'historien se situe trop loin, là, il y a quelque chose qui lui échappe. S'il se situe trop près, ben, ce n'est pas un hagiographe, il ne peut pas en parler. C'est très difficile de parler de François d'Assise, justement parce que les suites, le franciscanisme a été quelque chose de mouvant. Une fois, j'ai rencontré un dominicain qui m'a dit « Ah ben oui, mais nous, on est tous d'accord sur notre fondateur, tandis que… » Oui, bien sûr, mais ce n'est pas non plus, il faut bien dire, tout à fait la même personnalité. Et aussi parce que on peut dire que dans le christianisme tel qu'il existe aujourd'hui au XXIe siècle doit énormément à Saint-François. Si on faisait un micro-trottoir, la figure la plus emblématique du christianisme et des vertus chrétiennes, je pense, ce serait l'image qu'on a de François d'Assise. Alors, ce n'est pas rien de s'attaquer à Saint-François, et le résultat, c'est véritablement prodigieux. Ben, s'il y a un livre que vous devez lire cette année, lisez le François d'Assise d'André Vaucher. Maintenant que j'ai fait sa publicité d'une façon dont j'espère qu'il ne sera pas mécontent, je lui cède la parole.
Il y a un micro.
Non, tu l'as.
Ah, ça suffit, d'accord. Voilà. Bon, ben, je remercie évidemment très chaleureusement Michel Zinc pour cette introduction trop élogieuse. Il est vrai que nous nous connaissons de longue date. je ne dirais pas que c'est un vieil ami, car il est plus jeune que moi, mais nous avons commencé, je crois, à chahuter ensemble en 1974 au colloque de Fangeau sur la religion populaire, et depuis, nous ne nous sommes jamais perdus de vue, et il est aussi mon confrère à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, et cette année, mon président. Donc, je lui dois le respect, non seulement la reconnaissance pour l'invitation à ce séminaire. Voilà, alors je dois vous parler de l'humilité chez François d'Assise, ce qui n'est pas aussi simple qu'il pourrait paraître, car tout le monde sait ce que c'est que la pauvreté. On définit en général François d'Assise par pauvreté et humilité. La pauvreté, on connaît ou on croit connaître. L'humilité, c'est un concept assez flou qu'on a un peu de mal à définir. Alors, peut-être devrais-je quand même, j'ai hésité, mais je crois que je vais le faire quand même, vous rappeler en quelques mots qui a été François d'Assise. Je sais bien que vous le connaissez tous, mais je n'ai jamais oublié le désespoir d'une collègue italienne qui était venue enseigner dans une université parisienne que je ne nommerai pas, il y a une trentaine d'années. Il faisait un cours, c'était une historienne de l'art, sur l'iconographie de saint François d'Assise. Elle fait un cours, elle était très brillante, bien illustrée, un cours, deux cours. À la fin du deuxième cours, une étudiante vient la voir et dit « Madame, c'est très bien ce que vous racontez, mais qui est ce François d'Assise dont vous nous parlez depuis des heures ?» Donc, en Italie, tout le monde le connaît, en France, tout le monde croit le connaître, mais je me permettrai quand même de rappeler, très brièvement, je ne vais pas vous faire une biographie longue, mais en deux mots quand même, qui il était, quand il a vécu, quelles traces il a laissées. Voilà, alors, donc François, fils d'un marchand drapier d'Assise, Pietro di Bernardone, est né à la fin de 1181 ou au début de 1182, on ne sait pas exactement. La richesse de sa famille lui a permis de fréquenter des milieux aristocratiques, donc c'est un marchand, un fils de riche, un nouveau riche, mais qui, du fait même de sa richesse, a envie d'autre chose, a envie de devenir noble. Et il vit à l'époque où la littérature chevaleresque est en plein essor en Italie, enfin, celle qui vient de France, la matière de France, pourrait-on dire. Et il est tout à fait imprégné par les idéaux de cette culture courtoise et chevaleresque. Donc il n'est pas noble, mais il aspire à vivre noblement. En 1205, il va même jusqu'à se joindre à une expédition militaire qui pour aller gagner de la gloire, justement, sur les champs de bataille, en Pouille. Mais une vision l'arrête, enfin une maladie suivie d'une vision l'arrête. Et cela l'a amené à remettre en question l'orientation de son existence. Ce n'est pas une conversion au sens brutal, au fulgurant du terme, c'est le début d'un processus que j'ai appelé dans mon livre « Le retournement », qui va le conduire en 3 ans effectivement changer de vie. Après avoir rompu avec son père, l'épisode est bien connu, représenté souvent par les peintres, et avoir cherché sa voie pendant plusieurs années, il prit conscience de sa véritable vocation, qui était de vivre dans la pauvreté et l'humilité, et appeler l'humanité à la conversion. Il a été bientôt rejoint par quelques habitants d'Assise et des environs, tant clercs que laïcs, mais au début surtout des laïcs, qui formèrent avec lui une petite communauté itinérante et, comme on dirait aujourd'hui, informelle. On appelait les pénitents d'Assise, simplement des gens qui vivaient, mais ce n'était pas un ordre religieux, c'était un groupuscule de pénitents. En 1209, François rédigea un programme de vie constitué par quelques phrases, ce n'est pas une règle, contrairement à ce qu'on dit parfois, un programme de vie composé de phrases, quelques phrases d'évangile mises bout à bout, qu'il va soumettre au pape Innocent III, lequel sera un peu perplexe devant cette bande d'hurluberlus. La tradition veut qu'ils aient été 12, mais c'est presque trop beau, comme les apôtres. En tout cas, ils n'étaient pas très nombreux quand ils ont rencontré le pape. Mais malgré tout, la curie Innocent III semble avoir été frappée par ce personnage qui avait des accents d'authenticité incontestable et une forte personnalité. Donc le pape les a autorisés à prêcher, mais oralement. Il s'est bien gardé de leur donner une règle en attendant de voir comment les choses allaient tourner. Ça pouvait très bien tourner mal, puisqu'il y avait déjà eu avant un certain nombre de groupements laïcs qui avaient voulu prêcher la pauvreté et qui s'étaient finalement, ou qui avaient été rejetés dans l'hérésie, ou qui s'étaient comportés de façon critique vis-à-vis de l'Église, ce qui les avait amenés à entrer dans la dissidence. Donc, prudence au départ. L'Église approuve le programme de vie, mais ne le ratifie pas par une règle. Et de fait, alors à ce moment-là, François est plus sûr de lui, puisqu'il a l'approbation pontificale, même si elle est simplement orale, ça finit par se savoir, les évêques ne lui font plus grise mine, et il a un succès fou. Dans les années qui suivent, des centaines, des milliers de personnes se rattachent à lui en Italie centrale. Et puis ça, prédication s'élargit de plus en plus. Elle s'étend même aux femmes, puisqu'à partir de 1212, il est rejoint par Claire, une jeune aristocrate d'Assise. Et au début, semble-t-il, le mouvement était mixte. Il y avait des frères et des sœurs mineures. Nous avons un témoignage là-dessus très clair d'un évêque français, Jacques de Vitry, qui est passé à Assise en 1216 et qui nous dit qu'il y avait des frères et des sœurs mineures. Mais ça s'élargit surtout en direction des laïcs, même des laïcs mariés qui cherchent à adhérer à ce grand mouvement qu'il ne faut encore pas, j'insiste toujours beaucoup là-dessus, prendre pour un ordre religieux, au moins au début. C'est une sorte de mouvement de renouveau, vous savez, comme il y en a périodiquement aux États-Unis, le revival. François est une sorte de revival preacher, hein, qui dit « convertissez-vous », il ne dit pas « entrez dans mon ordre », êtes-vous moine ? Non, il dit que chacun, dans l'état où il se trouve, adopte, se convertisse et adopte un genre de vie évangélique. Et lui-même ne pourrait pas fonder un ordre religieux si la papauté ne l'avait pas obligé à le faire en 1220, parce que là, il y avait des milliers de personnes qui se rappelaient, réclamaient du nom de François, et ça commençait à devenir un peu anarchique et difficile à gérer. Voilà. Donc, en 1217, lors du chapitre général qui réunissait une fois l'an les frères autour de la petite église Sainte-Marie de la Portioncule à l'extérieur d'Assise où le mouvement était né, la décision fut prise d'envoyer des missions en dehors de l'Italie, en Allemagne, en Hongrie, en France, etc. Et François lui-même se rendit en Égypte en 1219 pendant le siège de Damiette, la cinquième croisade était en train d'assiéger Damiette, mais sans rompre avec les croisés, sans les condamner, il se rend compte que ce rapport de force entre la chrétienté et l'islam est probablement sans issue, et il va voir, et il quitte les lignes des croisés, sans aucune autorisation, même plutôt sans l'accord du légat pontifical qui dirigeait la croisade, il va trouver le sultan Al-Kamil, sultan d'Égypte, et ils ont eu, on ne sait pas ce qu'ils se sont dit malheureusement, mais il y a eu des entretiens qui ont duré au moins 2 jours, et qui n'ont abouti à rien, mais le simple fait de cette rencontre est évidemment important. De retour en Italie en 1220, à ce moment-là commencent les années difficiles, car la papauté veut l'obliger à régulariser, au sens étymologique du terme, son mouvement, et en faire un ordre, qui prend le nom alors d'ordre des frères mineurs, et qui dit ordre dit règle, donc François et ses frères se mettent au travail et rédigent une première règle que je citerai plus souvent dans mon exposé, qui s'appelle la règle de 1221, ou règle regula, en latin, regula non bullata, parce qu'elle n'a pas été bullée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas reçu l'approbation du Saint-Siège. Et le pape l'a obligé à réécrire un nouveau texte, beaucoup plus précis, beaucoup plus juridique, en 1223, qui cette fois-ci sera approuvée et qui deviendra, et qui est encore aujourd'hui, la règle des frères mineurs, la règle franciscaine. Voilà très schématiquement les choses. Les dernières années sont très difficiles, d'abord parce qu'il est revenu malade d'Égypte, donc c'est un malade jusqu'à la fin de sa vie, il est accablé de maux divers, mais il est aussi mal à l'aise vis-à-vis de l'évolution de sa fraternité, qui pour lui, encore une fois, n'était pas un ordre, mais qui évolue dans le sens d'un ordre religieux classique. Et ceci le met en porte-à-faux, d'une certaine mesure, vis-à-vis des siens, ou en tout cas d'une partie des siens. Donc il approfondit à ce moment-là son expérience religieuse intime, la plus douloureuse. Il aurait reçu les stigmates de la crucifixion en septembre 1224 sur la montagne de Laverna. Et devenu presque aveugle, il compose alors le cantique de Frère Soleil, le cantique des créatures, dans lequel il célébrait le Créateur à travers la beauté du monde. Texte fondamental, à tout point de vue, mais aussi texte premier, originel de la littérature italienne en langue vulgaire. Sentant approcher la fin, il rédige un texte non moins fondamental, son testament. Il a écrit un testament, qui est un testament purement spirituel, évidemment, pas du tout économique, où il évoque avec émotion sa conversion, les premiers temps de sa fraternité, et rappelle avec vigueur, car il sait qu'il va mourir prochainement, à ses fils spirituels qu'ils doivent rester fidèles à cet idéal de pauvreté et d'humilité qui était le sien et auquel il avait voué sa vie. Il meurt à la Portioncule, justement cette petite église qui était le berceau de son ordre, dans la nuit du 3 au 4 octobre 1226, et son corps fut ramené en procession à Assise, à l'intérieur des murs d'Assise, car les habitants de la ville craignaient, comme il était devenu une relique, qu'il avait une réputation de saint vivant, les habitants d'Assise n'avaient qu'une crainte, c'est que les voisins viennent faire main basse sur les futures reliques de ce saint. Grégoire IX, le pape de l'époque, qui le connaissait bien pour avoir collaboré avec lui en tant que cardinal, ne serait-ce que pour la rédaction de la règle, canonisa le pauvre d'Assise le 16 juillet 1228, donc à partir de ce moment-là, c'est un saint reconnu par l'Église, et on commença alors la construction de la fameuse basilique à deux niveaux, un des plus grands édifices religieux de la chrétienté, un des plus beaux par sa décoration intérieure, qui lui a été dédiée et qu'on peut encore voir aujourd'hui. Et ses restes, les restes de François, furent transférés dans cette nouvelle basilique en 1230. Voilà, là je n'entre pas, n'en dis pas plus. Si ce n'est pour vous rappeler que François est un des personnages les mieux connus du XIIIe siècle, au même titre que Frédéric II, son contemporain, ou Saint-Louis, parce qu'il a suscité une quantité incroyable de vie au sens hagiographique du terme, non pas des biographies historiques, mais des vies qu'on devait lire ou dont on extrayait des offices liturgiques. Pourquoi y en a-t-il tant ? Parce que d'emblée, il y a eu diverses lectures, entre guillemets, interprétations de François, et que chaque vie a suscité, en contre-coup, une vie autre, quelques années plus tard. On voit même un auteur, le grand auteur franciscain par excellence, Thomas de Celano, écrire successivement trois vies de François, trois vies très différentes l'une de l'autre, ce qui, évidemment, peut paraître paradoxal. Mais plus on avançait dans le temps, mieux on le connaissait, en quelque sorte, enfin, mieux il le connaissait, lui, en tant que biographe, et plus il était amené aussi à modifier ses points de vue en fonction du contexte général et de la vie de l'ordre. Et on aboutit finalement à la grande biographie qui va devenir la seule officielle à partir de 1263, la légende majeure, Legenda Maior, de François d'Assise, par Bonaventure, Saint Bonaventure, puisqu'il sera canonisé au XVe siècle, qui va devenir le texte exclusif, car on a voulu mettre bon ordre, les frères mineurs franciscains ont voulu mettre bon ordre dans cette musique un peu discordante, et il a été décidé que en 1266, que cette vie par Saint Bonaventure serait désormais la seule vie autorisée, et le chapitre général a donné l'ordre de détruire toutes les vies antérieures existantes. Ce qui n'a pas facilité la tâche des historiens par la suite, puisque c'est seulement au XIXe siècle, et même encore au XXe, qu'on a retrouvé parfois un seul manuscrit qui avait miraculeusement survécu des autres vies. Et cette légende de Bonaventure est évidemment une légende très orientée dans un certain sens. C'est celle qui va dicter l'iconographie de Giotto à Assise, et qui est une iconographie, comme je l'ai montré dans mon livre, extrêmement discutable. Voilà. Bon, je n'entre pas sur ces... n'en dis pas davantage, simplement pour vous dire qu'on connaît Saint-François donc par des textes hagiographiques, qui sont nombreux, mais d'interprétation délicate. Et puis on le connaît, heureusement, c'est surtout de ça que je vais vous parler aujourd'hui, par des écrits. C'est un personnage qui a écrit, il savait lire et écrire, non pas qu'il ait fait des études prolongées, mais il se destinait à être marchand, et donc il y avait des écoles, disons, de niveau élémentaire à Assise, l'école cathédrale où il a appris en latin. On apprenait à lire et dans le psautier. Donc il apprenait à la fois le latin et les psaumes, mais non pas dans le but de devenir prêtre ou moine, mais uniquement pour être capable de rédiger un contrat ou une quittance. Donc il n'a pas de culture cléricale, il n'a pas fait d'études de théologie, mais il sait un peu de latin, pas beaucoup, il fait deux ou trois barbarismes par phrase, mais enfin il le sait quand même, en tout cas il le comprend. Et c'est un lisant écrivant, hein, même si ce n'est pas un écrivain. Et donc, nous avons conservé de lui beaucoup. Malheureusement, une bonne partie de choses qu'il a écrites se sont perdues. Par exemple, ses lettres, nous en avons conservé quelques-unes, mais très peu. On sait qu'il y en a eu beaucoup plus. Et il a écrit aussi des conseils, des œuvres de direction spirituelle, en particulier celles qu'on appelle les admonitions, admonitiones en latin, qui sont extrêmement importantes pour notre propos. Et puis, il est l'auteur de la première règle, celle qui n'a pas été approuvée par la papauté, la Regula non bullata de 1221, et il est, dans une moindre mesure, co-auteur avec le futur pape Grégoire IX de la deuxième règle, celle de 1223. Et puis, il y a ce testament extraordinaire dont je vous citerai quelques passages. Et voilà. Donc, je ne veux pas être trop long, mais je pense que ces préliminaires n'étaient peut-être pas totalement inutiles. Alors, le thème que Michel Zinck m'a demandé de traiter est celui de l'humilité. Et comme je vous disais, c'est beaucoup moins facile à traiter, à comprendre, que la pauvreté. Pour François, enfin, l'intuition fondamentale de François, qu'il a approfondie au cours des trois années qui ont suivi sa conversion et précédé la fondation de sa fraternité, l'intuition fondamentale de François, c'est que Dieu, en Jésus-Christ, s'est fait humble et pauvre. Et François a cette formule extraordinaire, « Deus semper minor ». Dieu est toujours humble. Non seulement petit, mais plus petit, hein, Deus semper minor. Donc, l'idéal religieux individuel et communautaire qu'il va s'efforcer de faire prévaloir, ensuite dans le groupe, dans la fraternité qu'il crée autour de lui, qui se développe autour de lui, c'est ce qu'on appelle la minoritas en latin. Donc, ce n'est pas la minorité au sens où nous entendons ce mot, c'est-à-dire un petit nombre de gens, ou bien des jeunes qui n'ont pas atteint les 18 ans légaux, la minoritas, c'est le fait d'être minor, de vouloir se comporter en minor. Ce qui veut dire se comporter de façon humble et pauvre. Alors la pauvreté, évidemment, j'en dirai quand même quelques mots parce que les deux choses sont liées. François est d'un radicalisme absolu en matière de pauvreté. Si on veut entrer dans la fraternité, il faut renoncer à ses biens et les donner aux pauvres. Bon, c'est une exigence forte, mais on la trouvait déjà dans certains ordres religieux antérieurs. Mais la nouveauté, c'est que François va créer une communauté puis un ordre religieux dans lequel la pauvreté est exigée non seulement en privé, chaque moine aussi dans un monastère clunisien ou cistercien était pauvre, mais au niveau communautaire, les communautés franciscaines, les couvents ensuite qui vont se développer, ne doivent pas avoir de biens, ne doivent pas avoir de richesses, ne doivent pas avoir de propriété. Il y a chez François un refus absolu de l'appropriation. Le fait de s'approprier quelque chose, c'est déjà entrer du côté des possédants, des puissants, de ceux qui écrasent les autres. Et donc, il ne faut pas, si on veut porter un témoignage évangélique, il ne faut pas être propriétaire. Pour des religieux, pour ceux qui le suivent. Ouais. Donc, refus de la propriété, refus de l'argent, refus absolu de l'argent. Il y a des textes un peu plus précis dans la première règle, mais même aussi dans la deuxième. Et il dit à ses frères, si vous voyez une pièce de monnaie par terre, ne vous baissez pas pour la ramasser, car elle ne vaut pas plus que du crottin de cheval. Donc, c'est vraiment une interdiction absolue de recevoir de l'argent. Il préconisera, j'y reviendrai, la mendicité, mais la mendicité doit porter uniquement sur des denrées. On doit recevoir de quoi ne pas mourir de faim, et pas plus d'ailleurs, mais surtout pas de l'argent. Le seul cas dans lequel, très significatif, on est autorisé, les frères sont autorisés à détenir un peu d'argent, c'est pour soigner les malades. Alors là, il faut acheter des médicaments, il faut payer un médecin. Bon, donc là, on peut, mais c'est vraiment l'exception unique dans laquelle les frères sont autorisés à se servir d'argent. Alors pourquoi ce refus de l'argent ? Eh bien parce qu'il faut bien se situer, là encore, dans un contexte plus large, contexte religieux. François n'est pas le premier. Il y a eu toutes sortes de mouvements laïcs à partir de la deuxième moitié du XIIe siècle, dont l'axiome a été véritablement l'évangélisme et en particulier la pauvreté volontaire, être pauvre volontairement. Parce que le Christ a été pauvre, et donc le Christ et les apôtres ont vécu pauvrement, et donc si on veut les suivre, il faut vivre pauvrement. Mais aussi parce que nous sommes à une époque où se développe une économie d'échange, et l'Italie est à l'avant-garde de cette économie d'échange, à la suite de ce qu'on appelait la révolution commerciale du XIIe siècle. Les échanges se sont multipliés, échanges à l'intérieur de l'Occident, mais aussi échanges avec l'Orient, développement des grands ports italiens, Pise, Gênes, Venise, bien sûr. Donc nous sommes à une époque où l'argent commence à circuler abondamment et où un nouvel ordre social est en train de se mettre en place, où ce n'est plus tellement l'exercice du pouvoir, la noblesse, qui tient le haut du pavé, mais les gens qui ont de l'argent, qui peuvent être des nobles, mais qui peuvent être aussi des bourgeois, des commerçants enrichis, des hommes de loi, tous ceux qui ont l'occasion, de profiter de cette expansion économique extraordinairement rapide, galopante, qui, comme souvent l'expansion économique, nous en faisons encore l'expérience aujourd'hui, aboutit à enrichir les plus riches et à appauvrir les plus pauvres. Et donc, il ne faut pas... Donc, si on veut se situer du côté des pauvres, et c'est un choix que fait François, pour lui et pour les siens, il ne faut refuser l'argent. Voilà. Donc, ce n'est pas facile à vivre, mais c'est facile à comprendre, et je n'insiste pas là-dessus. L'humilité, par contre, c'est beaucoup moins clair, parce qu'être humble, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, il y a un passage de l'Évangile, « Soyez humbles et doux et humbles de cœur », donc on a un peu tourné ça parfois, ou compris cela, l'humilité, comme quelque chose d'un peu tendre, on risque de tomber rapidement dans le doucereux, la guimauve, vous voyez, humble de cœur. Bon, je pense à certaines images sulpiciennes du siècle dernier, où on voit Jésus tenant son cœur entre ses mains, le Sacré-Cœur, vous voyez, bon. Donc il y a toutes sortes de dérives possibles. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit avec François, ce n'est pas du tout son genre. Il faut partir pour comprendre l'humilité, ce qu'est l'humilité, la vraie humilité évangélique, il faut partir de l'humilité de Dieu, ou plutôt de l'humiliation de Dieu. Et là, je vous renvoie au premier texte, vous avez dû avoir des textes distribués, qui est le texte des admonitions. Donc, vous avez admonitions, vous avez le texte latin à gauche et le texte français à droite, ça vient de l'édition Sources chrétiennes des écrits de François d'Assise, 1986, je crois. Donc, admonition 14, c'est la page 93 de l'édition des Sources chrétiennes. Alors, donc ça, ce sont les textes de François lui-même. « Alors, fils des hommes, jusque à quand ce cœur lourd ? Pourquoi ne reconnaissez-vous pas la vérité ? Ne croyez-vous pas au Fils de Dieu ? Voici, chaque jour, il s'humilie, comme lorsque des trônes royaux, il vint dans le ventre de la Vierge. » Oui, cette idée de ce que Saint Paul appelait la kénose, mais qu'il dit en termes beaucoup plus concrets, presque brutaux. « Lorsque des trônes royaux, il vint dans le ventre de la Vierge. Chaque jour, il vient lui-même à nous sous une humble apparence. Chaque jour, il descend du sein du Père sur l'autel entre les mains du prêtre. » Donc Dieu s'est humilié. S'est humilié en s'incarnant, en se faisant chair et homme, et il s'humilie chaque jour, il continue à s'humilier chaque jour, en se faisant matière, le pain qui devient l'Eucharistie. Et pour François, l'Eucharistie est fondamental, c'est ce qui permet à l'homme de rester en contact avec Dieu, de devenir fils de Dieu. Voilà, donc l'humilité de Dieu, c'est une notion que Christian Bobin a très bien analysé dans son livre, s'appelle « Le très bas ». Dieu est à la fois le très haut, le tout puissant, etc., mais il est aussi le très bas, celui qui s'est humilié en s'incarnant. Voilà. Donc, si on veut suivre Jésus, si on veut devenir disciple de l'Évangile et du Christ, eh bien, il faut devenir humble à tous les sens du terme. Et il y a plusieurs sens du terme. D'abord, être humble, pour François, c'est le refus de toute domination. Je reviendrai sur ce point, mais je dis tout de suite, domination, pouvoir, nous entendons immédiatement, ça nous fait penser à la politique. Hein. Pouvoir politique, c'est normal d'ailleurs. Mais ce que François récuse, c'est toute position dominante, toute position hégémonique, toute position de surplomb dans les relations entre les hommes. Si vous vous mettez en position de surplomb, le rapport humain est déjà faussé. Oui. Parce que tous les hommes sont égaux en tant que fils de Dieu, donc si vous parce que vous êtes plus savant, vous êtes plus beau, vous êtes plus fort, vous êtes plus puissant, etc., vous parlez aux autres comme des minus, comme on dit parfois encore aujourd'hui, eh bien, vous êtes en position fausse. Vous avez rompu avec l'humilité. Voilà. Alors, ceci a plusieurs implications, et en particulier les implications morales. Premier niveau, un niveau moral. Là, prenez l'autre page, admonition 17, c'est la page 109, édition Source chrétienne. Qu'est-ce que c'est que l'humilité au niveau moral? C'est d'abord ne pas s'attribuer des mérites qui sont ceux que Dieu a donnés à l'homme. Je lis. « Heureux le serviteur qui ne s'exalte pas davantage du bien que le Seigneur dit et opère par lui que de celui qu'il dit et opère par un autre. Il pèche l'homme qui veut recevoir davantage de son prochain qu'il ne veut donner de soi au Seigneur Dieu. » Ensuite, 19, « De l'humble serviteur de Dieu. Heureux le serviteur qui ne se tient pas pour meilleur lorsqu'il est magnifié et exalté par les hommes que lorsqu'il est tenu pour vil, simple et méprisé. Car autant vaut l'homme devant Dieu, autant il vaut et pas plus. Malheur au religieux qui a été élevé par les autres et par sa volonté refuse de descendre. » Bon, puis ça continue sur les religieux et l'humilité pour les religieux. Mais vous voyez, c'est très important à ce niveau-là, l'idée que l'humilité consiste à ne pas s'attribuer d'autres mérites que ceux qu'on peut avoir aux yeux de Dieu. Donc tous les mérites humains... si on se les approprie, si on considère que c'est soi-même, c'est parce que on a fait ceci ou cela qu'on est méritant, eh bien, tout cela non seulement ne vaut rien, mais vous met dans une situation fausse, crée une relation fausse entre l'homme et Dieu. Tout ce qui nous a été donné, y compris... Encore une fois, beauté, intelligence, force, tout cela vient de Dieu. Il faut donc le rendre à Dieu et rendre gloire à Dieu pour cela, rendre grâce à Dieu. Mais ne pas considérer que cela nous appartient et en profiter pour écraser ceux qui sont moins beaux, moins forts, moins intelligents, moins cultivés, etc. Voilà. Deuxième point, un sens social qui... est lié en particulier chez François avec l'aumône. Alors là aussi, il faut être clair, la position de François a été souvent mal comprise, en particulier par ses fils spirituels. François, la première règle et dans son testament, dit que normalement, les frères devraient vivre de leur travail, c'est-à-dire qu'ils ne conçoivent pas qu'ils soient oisifs ou qu'ils consacrent uniquement leur temps à célébrer les offices ou à prêcher. Il tient beaucoup, il le rappelle dans son testament, que les frères travaillent de leurs mains. Mais, bien entendu, ils doivent aussi annoncer la parole de Dieu. Et d'autre part, on ne trouve pas toujours du travail. Quand je dis un travail, ce n'est pas forcément un travail fixe, puisque les frères étaient au début surtout itinérants. Et que, là encore, il ne s'agit pas de travailler pour gagner de l'argent, il s'agit de travailler pour gagner simplement sa subsistance. Donc aller donner un coup de main à un paysan qui fait la vendange, à la fin de la journée, il vous donne... l'équivalent d'un sandwich aujourd'hui, là, c'est bien. Mais il ne s'agit pas de se mettre au service d'un patron de façon stable. Voilà. Donc, travailler, gagner sa vie autant que possible à la sueur de son front, mais si ça ne suffit pas, parce que malgré tout, il faut vivre, eh bien, mendier. Donc, la mendicité est un pis-aller. Et très vite, une fois que François sera mort, cela va évoluer, le travail manuel sera abandonné comme étant une perte de temps, et on considérera que les frères, dans la mesure où leur rôle privilégié, c'est comme ça que la papauté en tout cas le voit, est d'annoncer la parole de Dieu, d'aller prêcher, eh bien, ils n'ont pas le temps de travailler, ils n'ont plus le temps de travailler, et donc, s'ils n'ont pas de quoi vivre, ils doivent mendier. Et la mendicité est prévue dans la règle. Donc, mendier, ça veut dire, enfin, je vous lis le texte, que tous les frères s'appliquent à suivre l'humilité et la pauvreté de notre Seigneur Jésus-Christ, et qu'ils se rappellent que du monde entier, nous ne devons rien avoir d'autre que ce que dit l'apôtre. Si nous avons des aliments et de quoi nous couvrir, nous en sommes contents. Voyez, subsistance, se nourrir, se couvrir, ça suffit. Et ils doivent se réjouir quand ils vivent comme des personnes viles et méprisées, parmi des pauvres et des infirmes, et des malades et des lépreux, et des mendiants le long du chemin. Et quand ça sera nécessaire, qu'ils aillent à l'aumône, et qu'ils n'aient point honte, et qu'ils se rappellent plutôt que notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant et tout-puissant, rendit sa face comme une pierre très dure et n'a pas eu honte. Et il fut un pauvre et un hôte, et il vécut d'aumône, lui et la Vierge Marie et ses disciples. Alors là, vous voyez, c'est très fort. Ça va même, je dirais, plus loin que le texte évangélique, puisqu'il affirme que le Christ a été pauvre, le Christ, la Vierge et les apôtres ont été pauvres et ont vécu d'aumône. Et dit-il, le seul des apôtres qui ait fait une fin tragique, c'est Judas, parce que, précisément, il gardait de l'argent dans sa bourse. Voilà, donc là, on retrouve l'humilité, en ce sens qu'il faut accepter l'humilité, s'humilier, mendier, c'est s'humilier, surtout pour, n'oublions pas que dans l'ordre franciscain, il n'y avait pas que des pauvres au niveau du recrutement social. Il y avait aussi, et même surtout, des bourgeois, des nobles, des gens qui, dans le siècle, avaient été dans le monde, avaient été honorés, et qui, du jour au lendemain, ou presque, se trouvaient dans une situation humiliante pour eux, et encore plus dans la société de l'époque. Et donc, il leur dit, eh bien, il les rassure en disant, « Et quand les hommes leur feraient honte et refuseraient de leur donner l'aumône, qu'ils en rendent grâce à Dieu, car pour ces affronts, ils recevront grand honneur devant le tribunal de notre Seigneur Jésus-Christ. » Vous voyez l'opposition honte-honneur. Vous avez honte, mais en fait, c'est un honneur qu'on vous fait en vous insultant ou en vous refusant l'aumône. « Et qu'ils sachent que la honte est imputable non à ceux qui la souffrent, mais à ceux qui l'infligent. » Donc la véritable honte, c'est pour ceux qui vous refusent l'aumône et non pas pour vous. « Car l'aumône est l'héritage et la justice qui sont dues aux pauvres et que nous a acquis notre Seigneur Jésus-Christ. » Alors là, c'est très important aussi parce que ça reprend une idée très développée à partir de la fin du XIIe siècle en Occident, que l'aumône n'est pas seulement faite, comme on l'avait dit jusque-là, pour permettre aux riches de faire leur salut, mais que l'aumône est un droit. Les pauvres ont des droits sur nous et ils ont en particulier le droit de recevoir des riches ce qu'il leur faut pour vivre. Mais là, je ne développe pas ce point, simplement, vous voyez qu'un des aspects de l'humilité, c'est d'accepter la honte sociale, la honte sociale, bien sûr, qu'implique la mendicité. Troisième sens de l'humilité chez François, c'est un sens, je dirais, relationnel, communautaire. Il ne faut pas juger les autres, il ne faut pas s'estimer supérieur aux autres. Et c'est un thème très important qui revient souvent dans les écrits de François, en particulier dans la première règle, qui encore une fois représente ce que j'ai appelé dans mon livre l'utopie franciscaine à l'état pur. C'est-à-dire que là, vraiment, on voit ce qu'il aurait voulu faire, il n'est pas arrivé totalement parce que son message était trop révolutionnaire, remettait trop de choses en question, mais c'est là qu'il exprime véritablement le fond de sa pensée. Vous voyez. Donc, humilité dans les relations humaines, c'est en la première règle, donc la règle non bullée au chapitre 11. Que les frères ne blâment ni ne critiquent, mais qu'ils s'aiment les uns les autres, que tous les frères prennent garde de calomnier, de se quereller en paroles, bien plus lorsqu'ils s'appliquent à garder le silence chaque fois que Dieu leur en fait, bien plus qu'ils s'appliquent à garder le silence chaque fois que Dieu leur en fera grâce, et qu'ils ne se disputent ni entre eux ni avec d'autres, mais qu'ils aient soin de répondre humblement en disant « Je suis un serviteur inutile » et qu'il ne se mette pas en colère, car quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui dira à son frère « Raca », alors ça c'est une citation d'Évangile, sera passible du conseil, celui qui dira « Fou » sera passible de la géhenne du feu. Et qu'ils s'aiment les uns les autres, comme dit le Seigneur, ceci est mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé, et qu'ils montrent par des actes l'amour qu'ils ont les uns pour les autres, comme dit l'apôtre, n'aimons pas en parole ni en langue, mais en acte et en vérité. Et qu'ils ne blâment personne, qu'ils ne murmurent pas, qu'ils ne critiquent pas les autres, car il est écrit, les diffamateurs et les critiqueurs sont haïs de Dieu. Et qu'ils soient modestes, montrant de la mansuétude à tous les hommes, qu'ils ne jugent pas, qu'ils ne condamnent pas. Et comme dit le Seigneur, qu'ils ne considèrent pas les plus petits péchés des autres, bien plus qu'ils repensent plutôt aux leurs dans l'amertume de leur âme, et qu'ils s'efforcent d'entrer par la porte étroite. Car dit le Seigneur, étroite est la porte, et resserrée la voie qui conduit à la vie, et il y en a peu qui la trouvent. Alors, vous voyez, il y a vraiment tout un code de comportement qui vaut évidemment entre les frères, d'abord au sein des communautés, de la fraternité, et puis qui vaut aussi dans les relations avec les hommes. Et en particulier, je ne peux pas tout citer, il y a quantité de développement chez François qui revient plusieurs fois là-dessus, sur les rapports entre les prédicateurs et les gens qui les écoutent. Il dit « Ne vous mettez pas en position dominante de ceux qui font la morale aux autres et qui, en privé, se comportent différemment. Votre parole doit être absolument en consonance avec votre vie. » Mais surtout, vous ne devez pas faire la morale aux gens, les tenser de haut, comme si vous leur étiez supérieur. Ne pas condamner, ne pas mépriser, ne pas se mettre en colère, en chair, ne pas dénoncer de façon agressive les abus de l'Église, par exemple, parce que c'était aussi un des grands problèmes. Le clergé, vous le savez, à l'époque, n'était pas d'une moralité exemplaire. Et beaucoup de prélats ou de clercs sans vocation songeaient surtout à s'enrichir. Et donc, ce qui avait entraîné beaucoup de mouvements de contestation laïque auparavant, les Vaudois en particulier, dans l'hérésie, ou en tout cas dans la dissidence, c'était le fait qu'ils s'étaient attaqués violemment dans leur prédication aux clercs immoraux ou aux clercs malhonnêtes. Bien, François dit non, ce n'est pas la peine d'agresser l'Église, ce n'est pas la peine d'agresser le clergé, ça ne fera que les endurcir dans leurs attitudes. Il ne faut pas condamner, mais il faut prêcher verbo et exemplo, par la parole et par l'exemple. C'est à ce prix que votre parole pourra avoir un effet, et non pas si vous vous déchaînez du haut de votre grandeur. Et il y a, alors là, on retrouve une espèce de non-violence fondamentale, enfin, on la trouve pour la première fois, mais on la retrouve souvent, cette idée fondamentale chez François que les condamnations agressives, les contestations violentes ne font qu'élargir le cercle de la violence dans le monde. Et ça, c'est une idée très forte qu'on retrouve à notre époque chez quelqu'un comme la juive hollandaise Etty Hillesum, qui vit à la fin de sa vie dans un camp d'internement aux Pays-Bas, puis qui sera envoyée à Auschwitz où elle est morte. Et on a gardé ses lettres extraordinaires. Où elle dit, mais se dispute avec ses co-religionnaires juifs dans ce camp en disant, mais il faut cesser de haïr les gens qui nous gardent, il faut cesser de haïr les SS, parce que ça rajoute encore de la haine dans le monde, et il y en a déjà tellement que ça ne peut que faire le jeu des forces du mal. Vous voyez, donc exactement l'idée qu'on trouve déjà chez François. La contestation haineuse ne fait qu'élargir le cercle de la violence. Donc il faut avoir un comportement humble, se considérer comme un serviteur inutile. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est une citation évangélique, finalement, c'est une serviteur inutile. Ça veut dire faire ce qui vous a été prescrit, même, dit François, si vous considérez que celui qui vous donne un ordre, par exemple, là il parle pour les religieux, même si vous considérez que vous êtes plus intelligent que celui qui vous donne un ordre, ou que vous y voyez plus clair que lui, et que vous êtes persuadé qu'il se trompe, vous devez quand même l'obéir, sauf s'il vous prescrit des choses qui sont contraires à la règle, contraires à l'amour. Voilà. Donc, concrètement, à ce niveau-là, que signifie l'humilité ? Faut-il rester muet et inerte devant le mal, sous prétexte d'humilité et de non-violence ? Là, il faut bien comprendre l'attitude de François, parce qu'elle est extrêmement, je dirais, sur une ligne de crête extrêmement fragile, où on peut tomber d'un côté ou de l'autre. On pourrait dire, mais alors à ce moment-là, S'il suffit de se taire, on devient complice du mal, etc. Donc, ce qu'il dit, c'est qu'il dit, ce qu'il dit pour guider ses frères dans ce, sur ce plan, c'est qu'il ne faut ni juger ni condamner, j'ai déjà dit, et les péchés des autres, hein, il faut leur ouvrir plutôt des voies, des perspectives positives, et d'autre part, il faut il ne faut pas plutôt les déprécier, il ne faut pas ouvrir la bouche. Alors, il y a une expression qui, là aussi, peut être mal comprise. Se taire, il faut se taire, il faut garder la parole, garder le silence. Ça ne veut pas dire, enfin, comme on dit familièrement, on peut se taire et on n'en pense pas moins. Oui. C'est ça l'attitude de François, c'est-à-dire ne pas faire d'éclat, mais on n'en pense pas moins, ce silence ne doit pas être interprété comme une complicité, ce n'est pas une démission. On ne peut pas ne pas réagir violemment devant le mal sans la grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu qui fait qu'on est capable de garder le silence. Alors, on parle beaucoup aujourd'hui de la vertu d'indignation, et on a raison, mais François va plus loin en disant c'est bien de s'indigner, mais il faut s'indigner intérieurement et agir ensuite pour que l'objet de cette indignation disparaisse. Donc, ce n'est pas un signe de démission. Mais, vous voyez, c'est extrêmement subtil. Alors, l'attitude générale que recommande François vis-à-vis des puissants, vis-à-vis des dirigeants, mais de façon générale vis-à-vis des autres, c'est d'être subditi, d'être soumis. Donc il faut continuer, même si on trouve qu'ils agissent mal, à obéir aux autorités, il faut leur être soumis. Dans la règle, la première règle, il dit « Sed sint minores et subditi omnibus qui in eadem domo sunt », qu'ils soient mineurs, alors au sens où je l'ai défini tout à l'heure, et qu'ils soient soumis à tous ceux qui vivent dans la même maison. Et même attitude vis-à-vis du clergé, bien sûr que les frères rencontrent sans arrêt des clercs indignes, et il leur dit pourtant, ne les agressez pas, ces prêtres indignes, « Et omnes clericos et omnes religiosos habeamus pro dominis in isque spectant ad salutem anime. » Et tous ces clercs et ces religieux, considérons-les comme des maîtres, pro dominis, c'est très fort, dans ce qui concerne le salut de notre âme. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit rien dire sur leur comportement vis-à-vis des pauvres ou vis-à-vis de leurs fidèles, etc. Donc tout ça, c'est une règle générale dans tous les rapports avec les autres, être soumis. Être soumis, mais, encore une fois, ce n'est pas une complicité avec le mal. L'expression qu'emploie François, c'est « retinere silentium », qu'on pourrait traduire par « tenir sa langue », « maîtriser sa colère et son désir de répondre au mal par la violence ». Et cela, à cela, il vaut mieux préférer le silence, plutôt se taire que de perpétuer le cycle de la violence en répondant à une action violente par une autre. Donc on espère, il y a un acte de foi évidemment dans la personne humaine, espérer que le silence absorbant que l'on observe fera réfléchir l'autre et l'amènera à changer d'attitude au lieu de multiplier les insultes et les coups. Donc la force de l'amour peut se révéler à travers la soumission et entraîner peut-être, avec la grâce de Dieu, dit François, le changement de mentalité, comme nous dirions aujourd'hui, la conversion de l'autre. Voilà. Donc, ceci est extrêmement important. Et il y a un texte admirable qui illustre cette attitude de François. C'est un texte, c'est peut-être le plus beau texte de François avec le Cantique des créatures. Il n'est pas très connu, même si Auerbach l'a déjà cité et commenté dans Mimesis en 1931, je crois. C'est le premier à l'avoir remarqué. Mais il l'a étudié surtout d'une perspective stylistique, mais quand même avec des remarques très fines. Vous l'avez dans votre dossier, je pense. Ça s'appelle « Lettre à un ministre ». Alors, ministre, attention, hein, ça veut dire « ministère », ça veut dire « serviteur », même si nous avons oublié cette étymologie, ou si on tend parfois à nous la faire oublier. Et chez les franciscains, donc, il a fallu à un certain moment créer des provinces, parce que les frères étaient devenus si nombreux qu'on ne pouvait pas être simplement une bande de copains autour de François. Donc on a créé des provinces, on a divisé, disons, l'Italie, puis ensuite l'ensemble de la chrétienté après la mort de François, en provinces, la province de France, la province d'Angleterre, etc. Voilà. Et à la tête de ces provinces, François, de son vivant, puis après lui, le chapitre général, le ministre général nommait un ministre, était le responsable supérieur de la province. Voilà. Donc ministre au sens évidemment de supérieur religieux. Alors on ne sait pas à qui cette lettre est destinée, c'est frère X. On pense que c'est frère Élie, des compagnons les plus proches de François, qui deviendra ensuite, après sa mort, ministre général. Bon, enfin, peu importe. Alors voilà ce qu'il écrit à frère, donc X, ministre, « Que le Seigneur te bénisse. Au sujet de l'état de ton âme, je te dis, comme je peux, que ce qui t'empêche d'aimer le Seigneur Dieu, et quiconque serait pour toi un empêchement, des frères ou d'autres, même s'il te rouait de coups, tu dois tout tenir pour une grâce. » Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce ministre a écrit à François, on n'a pas la lettre, mais on peut supposer, d'après les réponses de François, « Je n'en peux plus, les gens qui sont autour de moi ne m'obéissent plus, c'est l'anarchie. » Parce que n'imaginons pas que ces gens qui entraient dans la communauté franciscaine étaient tous des saints. Ces milliers de gens qui sont venus en quelques années, car ils étaient déjà 3000 à la mort de François, avait été absolument ébloui en l'entendant, en le rencontrant. Il avait un charisme extraordinaire. Ils avaient tout abandonné pour le suivre. Mais après, c'est très dur de vivre dans la pauvreté intégrale sans être assuré du lendemain, sans avoir parfois rien à manger, marcher pieds nus dans le froid. N'imaginons pas, on imagine souvent l'ombrie comme des paysages souriants, plein de fleurs. Mais enfin, on est en hiver, il y a de la neige. Il fait à Assise, il y a un vent épouvantablement glacé pendant 3 mois. Donc n'imaginons pas que c'était une partie de plaisir ou de rigolade. Donc ces gens qui avaient suivi François pour un coup de cœur, après ils se retrouvaient dans une communauté, ils trouvaient que c'était un peu dur, et parfois ils s'en prenaient à leurs supérieurs ou ils refusaient d'obéir quand on leur donnait des ordres un peu exigeants. Donc le supérieur en question, il a dû écrire un jour à François pour exprimer ce qu'on appelle aujourd'hui un ras-le-bol, en disant « j'en peux plus de ces types, ils sont vraiment devenus insupportables, ils ne m'obéissent pas ». Alors voilà ce que donc François lui répond. Et tu dois vouloir ainsi et pas autre chose. Alors il lui dit d'abord quelque chose qu'on retrouvera plus tard chez Bernanos, « tout est grâce », y compris les mauvais coups que lui infligeaient ses frères, ses subordonnés. Et tu dois vouloir ainsi et pas autre chose. Et fais cela par obéissance véritable au Seigneur Dieu et à moi, car je sais fermement que telle est l'obéissance véritable. Et aime ceux qui te font ces choses. Ces choses, c'est-à-dire ces mauvais coups, ces mauvaises choses. Et ne veuille d'eux rien d'autre que ce que le Seigneur te donnera. Et aime-les en cela, et ne veuille pas qu'ils soient meilleurs chrétiens. Alors ça, c'est une phrase tellement extraordinaire, tellement exorbitante, que dans beaucoup d'éditions, on a rajouté un nom, un non, et veuille, ou on a plutôt enlevé, excusez-moi, on a enlevé le non, hein, parce qu'en latin, ça doit et in hoc diligé eos, et non velis quod sint miliores Christiani. Alors, beaucoup d'éditeurs pieux, et c'est normal, se sont dit, c'est pas possible que François ait dit ne veuille pas qu'il soit meilleur chrétien. Donc, ils ont enlevé le non en disant c'est sûrement une mauvaise lecture d'un manuscrit du Moyen-Âge mal fondé. Mais en fait, on a retrouvé dans les manuscrits les plus anciens le non. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces gens-là, il faut les prendre comme ils sont, il faut les aimer, mais de toute façon, c'est Dieu qui fera d'eux éventuellement de meilleurs chrétiens. Ce n'est pas à toi de leur faire la morale et d'essayer uniquement de tes forces humaines d'en faire de meilleurs chrétiens. Alors, ça a paru tellement exorbitant qu'on a retouché la phrase après coup, mais... Et bien sûr que ce que François écrit, c'est « ne veuille pas qu'il soit meilleur chrétien ». Et que ce soit pour toi plus qu'à l'ermitage. Alors, c'est une phrase un peu mystérieuse pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'ermitage, c'est les temps que les frères passaient dans la solitude. Ils alternaient, ils étaient dans la vie active, ils prêchaient, mais ils alternaient les temps de prédication itinérante avec des temps de solitude, de prière, dans les ermitages qui étaient au fond des bois. On en voit encore quelques-uns en Ombrie, en Toscane aujourd'hui. Là, c'était considéré comme évidemment le temps de la béatitude. On était en petits groupes, on priait ensemble, on vivait complètement coupé du monde. Bon, c'était le temps de la contemplation, c'était merveilleux. Et elle dit que ce soit pour toi te bagarrer avec tes subordonnés, que ce soit pour toi plus que l'héritage, l'ermitage. Là aussi, c'est dur à avaler. Et je veux connaître en ceci si tu aimes le Seigneur et moi, ton serviteur et le tien, si tu fais en sorte qu'il n'y ait au monde aucun frère qui ait péché autant qu'il aura pu pécher, et qui, après avoir vu tes yeux, ne s'en aille jamais sans ta miséricorde s'il demande miséricorde. Et s'il ne demandait pas miséricorde, toi, demande-lui s'il veut la miséricorde. Et si après cela, il péchait 1000 fois devant tes yeux, aime-le plus que moi pour l'attirer au Seigneur. Et aie toujours pitié de tel frère. Donc, vous voyez, c'est un texte vraiment prodigieux et dans lequel se définit justement ce sens profond de l'humilité dans les rapports sociaux et dans les rapports fraternels, intérieurs de la fraternité, mais aussi avec tous les hommes. Donc ce qui compte, c'est de continuer à aimer les gens, même s'ils continuent à faire des bêtises, et continuent à se comporter mal envers vous. C'est en persévérant dans la miséricorde, dans l'amour vis-à-vis de ces gens ou de ses frères, qu'on pourra peut-être les faire changer, et non pas en leur faisant la morale ou en essayant de façon autoritaire de les ramener à un comportement meilleur. Voilà donc l'usage social de l'humilité, qui donc, vous voyez, valorise surtout le témoignage. Non pas que François ne croit pas à la parole, puisqu'il a cessé de prêcher tout au long de sa vie, et jusqu'aux derniers instants, mais la parole ne va pas sans l'exemple, verbo et exemplo. S'il n'y a pas de témoignage ou s'il y a un contre-témoignage, la parole ne sert de rien. Et il a des développements, une violence terrible, lui qui est non-violent, vis-à-vis des prédicateurs qui s'enflent, c'est-à-dire qui non seulement font la morale aux autres, mais qui croient que si leur sermon est bien réussi, ils le doivent à leur propre mérite et non pas à la grâce de Dieu. Je distinguerai enfin deux derniers niveaux de l'humilité, l'un sur lequel je passerai rapidement parce qu'il est assez connu, même s'il n'est pas toujours bien compris, c'est, je dirais, l'humilité au niveau cosmique, au niveau de l'univers. Et cette humilité cosmique, elle se trouve évidemment dans le cantique des créatures, ou cantique de Frère Soleil, qui est un des textes les plus célèbres de François, et qui est un texte en langue vulgaire. Mais je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Les autres textes sont en latin, soit qu'ils aient été écrits par François en latin. On voit quand c'est lui qui écrit, je vous dis, il y a un barbarisme et un solécisme par phrase, parce que il comprenait le latin, mais il n'avait pas fait d'études spécialisées, ni cléricales, donc il l'écrivait mal, il ne connaissait pas bien la grammaire. Mais quand il écrit en langue vulgaire, évidemment, ça a un sens particulier. Là, donc, dans le cantique de Frère Soleil, il écrit en langue vulgaire, ce fameux altissimo omnipotens. Alors, c'est une langue vulgaire très proche du latin, mais ce n'est quand même pas du latin. Altissimo omnipotente bon signore, tue so le laude, la gloria e l'onore, e onne benedizione. A te solo, altissimo, se confano, e nullo uomo enne digno tementovare, etc. Bon, vous connaissez, j'imagine, ce grand texte. Alors, pourquoi est-ce que je parle d'humilité à ce propos? Ça peut paraître étrange. Eh bien, parce que dans ce texte, là encore, sans faire de discours, uniquement à travers une prière, une louange, ce sont des laudes adressées à Dieu, François définit une position de l'homme tout à fait originale. L'homme n'existe qu'au milieu de la création. L'homme doit rendre grâce à Dieu à partir de la création. Certes, la création a été créée pour l'homme, Par exemple, quand il parle de l'eau, il dit « Loué sois-tu, mon Dieu, pour sœur eau, qui est très utile et humble et précieuse et chaste. » Donc oui, l'eau est utile, parce qu'elle est utile pour les hommes, pour les animaux, donc elle est, la création a été faite pour l'homme, mais elle est aussi humble. Donc toujours cette notion d'humilité. Et il rappelle aux hommes que la création ne leur appartient pas. C'est la même chose que ce que je disais tout à l'heure pour les richesses, ou l'intelligence, ou la parole. Donc, l'homme n'est pas... L'homme est bien le centre de la création, mais il n'est pas le maître de la création. Il doit la respecter. Et pour François, il n'y a pas de fracture à l'intérieur du créé. Il y a une continuité. Bien sûr qu'il y a des niveaux à l'intérieur de la création. Il ne fait pas la théorie de la chose, d'ailleurs. Mais il loue Dieu par les pierres, par exemple. Il loue Dieu par les pierres, par les roches. Et il dit même à un moment, dans les admonitions, les éléments, les pierres, les rochers, tout le créé, est finalement meilleur que l'homme parce que, à la différence de l'homme, il n'a jamais péché. Donc, alors vous voyez, une espèce de réévaluation du créé, de la création, qui n'est pas simplement... ça a évidemment pour nous beaucoup de résonance dans le climat écologique qui est le nôtre, que la création n'est pas faite simplement pour être exploitée par l'homme. Bien sûr, elle a été faite par Dieu pour l'homme, mais elle existe en soi et elle existe surtout dans un continuum qui va des pierres jusqu'à l'homme en passant par les animaux. Et vous savez que les animaux tiennent évidemment un grand rôle dans la pensée et dans la pratique de François. Donc pas de césure, pas de césure, et l'homme ne doit pas se comporter, doit se comporter humblement dans la nature, c'est-à-dire qu'il doit la respecter, parce que la nature, d'abord, chante la gloire du Créateur, c'est le sens du cantique de Frère Soleil, mais aussi parce que cette nature, elle est aussi à l'image de Dieu, elle est aussi créée par Dieu, et donc l'homme n'est simplement qu'un degré dans la création. Un degré essentiel, bien sûr, mais un degré. Enfin, et surtout, dans les minutes qui me restent, je dirais, m'étendrai un peu davantage sur un cinquième sens de l'humilité chez François, qui est la dimension culturelle. Dimension culturelle qui est absolument fondamentale. François est un grand maître spirituel, si l'on veut, mais enfin, il n'a pas écrit de... En dehors de ses admonitions, de ses règles, de quelques lettres, il n'a pas une œuvre spirituelle considérable. Mais il a quand même joué un rôle absolument fondamental en tant que médiateur culturel. Et il a fait plus qu'être un médiateur, un go-between, comme on dit aujourd'hui en franglais, entre la culture savante des clercs et la culture populaire. Il a véritablement, là encore, donné une valeur à la culture humble, à la culture qu'on peut appeler populaire. Ça nous renvoie au débat de 1974. Qu'est-ce que la culture populaire ? Mais enfin, bon, la culture, disons, de ceux qui ne sont pas littérati, parce qu'au Moyen-Âge, la grande coupure, c'était des littérati qui savaient le latin, qui écrivaient en latin, et ça veut dire le latin qu'il comprenait et qu'il écrivait, et puis les illitterati, qui n'étaient pas forcément des illettrés, mais qui ne savaient pas le latin. Alors nous sommes à une époque, justement, là aussi, où ça bouge, où on commence, mais François est un des premiers, à écrire en langue vulgaire. Jusque-là, on n'écrivait pas, on n'écrivait guère que des contrats commerciaux, en Italie en tout cas, en langue vulgaire. Tout le reste était en latin. Nous ne sommes pas encore à l'époque de Dante. Enfin, ça va évoluer très vite ensuite, mais vers 1200, le latin était encore la langue largement dominante. Et les gens qui écrivaient, on n'écrivait guère qu'en latin, parce que c'était la langue de l'écriture. Voilà. Eh bien, François va changer les choses dans ce domaine. Je vous ai dit, il savait un peu de latin. Il savait surtout le français. Non pas qu'il l'ait appris à l'école, mais il l'avait appris par la chanson. Comme aujourd'hui, beaucoup de jeunes apprennent l'anglais par les Beatles ou leurs successeurs, ou ont appris l'anglais par les Beatles, c'est déjà un peu passé de mode. Mais il savait énormément de chansons en français, et quand on dit français, pas seulement de français de langue d'ouïe, le français du Nord, mais aussi de langue d'oc. Ça, nous savons qu'il avait une connaissance extraordinaire de la lyrique française. Il parle de ses frères en religion, comme mes chevaliers de la table ronde, etc. Enfin, sans arrêt, il cite Roland, Olivier, les personnages de la littérature de l'époque. Et en même temps, il est évidemment plutôt un homme de la langue vulgaire, la langue du peuple, qui, je le rappelle, n'était pas encore une langue fixée. L'italien n'existait pas. Le fameux Cantique des créatures, qui est en langue vulgaire, n'est pas en latin, ce n'est pas de l'italien, c'est de l'ombrien, c'est le dialecte d'Ombrie. Et puis, 50 kilomètres plus loin, il y avait un autre dialecte. Et il y avait une langue vénitienne, une langue sicilienne, il y en a encore d'ailleurs. Et il n'y avait aucune unification. C'est après Dante qu'on peut dire qu'il commence à y avoir une langue toscane qui ensuite, au XVe siècle, deviendra l'ancêtre de la langue italienne. Donc d'un côté, on a une langue extrêmement bien établie, avec des règles solides, qui est la langue de l'élite, qui écrit, qui lit, qui est le latin. De l'autre, on a une sorte de patois qui est la langue qu'on parlait à Assise. Et dans une partie de l'Ombrie. Eh bien, François n'hésite pas à utiliser cette langue, qui n'en est pas une, ce dialecte, ce patois, pour parler à Dieu. Il est le premier homme à avoir osé parler, au Moyen-Âge, à avoir osé parler à Dieu, s'adresser à Dieu en langue vulgaire. Ça, c'est quelque chose qui n'a jamais été tellement noté, mais qui est fondamental. Parce que ça anoblit. Là encore, on part d'une langue humble, une langue pauvre, la langue parlée, qui n'a aucun référent littéraire. Il n'y a pas d'œuvre dans cette langue, à cette époque. Et on anoblit cette langue vulgaire, ce volgare, comme on dit en italien, on en fait une langue de la prière, c'est-à-dire quand même de l'acte, un des actes religieux les plus nobles. Et en faisant cela, François va ouvrir une voie extraordinairement féconde à l'Italie, parce que, à partir de lui, après lui, sous l'influence de ses frères et d'autres influences aussi, je ne peux pas entrer dans les détails, eh bien, dans les mouvements laïcs qui vont se regrouper, qui vont s'agglutiner autour des couvents franciscains, il y aura des couvents de pénitents laïcs, mariés souvent, qui ne sont pas donc des religieux au sens propre, mais qui vivent dans la mouvance des couvents et qui vont former, à partir de la fin du XIIIe siècle, qu'on appelle les tiers ordres, les tertiaires, franciscains, dominicains, etc. Eh bien, ces groupements laïcs vont devenir des foyers de création poétique en langue vulgaire. On va y rédiger des laudem en l'honneur de Dieu, de Saint François, des saints, de la Vierge Marie, etc. Et donc, ce mouvement inauguré par François va ennoblir la langue vulgaire, qui était juste là, une langue de l'oralité, la langue du peuple. Donc là encore, une approche qui part de l'humilité de la parole et qui la transforme en louange et en littérature. Et avec François aussi apparaît un genre, enfin, ce n'est pas un genre littéraire, mais un ton littéraire, je dirais, une manière de s'exprimer, qu'on appelle le sermo humilis, le sermon humble. Alors, là aussi, sermon, ne l'entendons pas au sens de prédication. Sermo, c'est simplement le fait de parler en public. Ça peut être dans une assemblée politique, ça peut être un sermon de type ecclésiastique, mais enfin clérical. Mais ce n'est pas forcément un sermon. Alors, qu'est-ce que c'est que le sermo humilis? Eh bien, ça consiste à rompre avec le grand genre de l'éloquence sacrée, parce qu'il faut bien voir ce que c'était que la prédication à l'époque. Le prédicateur commençait par donner des références bibliques citées en latin, il y avait toute une architecture, souvent très, très belle d'ailleurs, très impressionnante. C'était très construit, les sermons médiévaux, dans lesquels on développait souvent de façon allégorique tel ou tel passage de la Bible, tel verset biblique, etc. Donc c'était un genre solennel qui s'apprenait dans les écoles, puis dans les universités. Eh bien, François refuse absolument cette façon de parler de Dieu en particulier, parce qu'il craint, ou il est sûr qu'elle passera par-dessus la tête de ses auditeurs, et donc il recourt à des mots simples, à des récits familiers, par exemple, ce qu'on appelle les exemplats, des petits récits vivants qui vont renforcer son propos. Et il y en a qui sont tout à fait... j'ai pas le temps, si on veut peut-être un peu discuter, de vous en lire, enfin, ou tout au plus un. C'est dans le... Je retrouve ma référence. Dans la lettre aux fidèles, voilà. Et c'est donc adressé à des laïcs, donc là, il choisit justement un style qui soit compréhensible pour les gens auxquels il s'adresse. Et il leur raconte donc une petite histoire pour bien leur faire comprendre la nécessité de se convertir. Alors, il décrit la mort d'un homme, comment ça se passait à l'époque. Oui. Le corps est malade, la mort approche, les proches et les amis viennent en disant « Dispose de tes biens ». Voilà son épouse et ses fils et ses proches, ses amis qui feignent de pleurer. C'est très réaliste. En les regardant, il les voit pleurer. Il est mu par un mauvais mouvement et pensant en lui-même, il dit « Voici mon âme et mon corps et tous mes biens, je les livre en vos mains ». Vraiment, alors François reprend la parole, « Vraiment, cet homme est maudit qui confie et risque son âme et son corps et tous ses biens en de telles mains. » Et il faut aussitôt venir le prêtre. Le prêtre lui dit « Veux-tu recevoir la pénitence de tous tes péchés ?» Il répond « Je le veux. Veux-tu satisfaire comme tu peux avec ta fortune pour ce que tu as commis et pour les fraudes et les tromperies que tu as eues à l'égard des hommes ?» Il répond « Non. » Le prêtre dit « Pourquoi non ?»« Parce que j'ai tout remis dans les mains de mes proches et de mes amis. » Il commence à perdre la parole et il meurt ainsi le misérable. Donc vous voyez, le mourant qui est à l'article de la mort a tout donné à sa famille et n'a rien gardé pour les pauvres ni pour l'Église. Quand le prêtre lui dit « Veux-tu satisfaire, c'est-à-dire veux-tu donner quelque chose en compensation de tes péchés ?» Eh bien, il répond « Non ». Voilà. Et à ce moment-là, dit François, eh bien, il a raté son éternité, il est voué une éternité malheureuse. Voilà. Eh bien, donc, vous voyez, c'est très direct, c'est même un réalisme un peu rude quand on voit les rapports familiaux que cela implique. Et voilà un exemple de sermon humilis utilisé par François. Et le terme qu'il a choisi pour définir, lui, ce langage, enfin, il se présentait avec ses frères quand il arrivait dans une ville ou un village en disant « Nous sommes les jongleurs de Dieu ». Jongleurs de Dieu, ça paraît banal, c'est devenu banal tellement ça a été glosé, mais ça n'était pas du tout, parce que les jongleurs et Dieu, ça n'avait rien à voir. Les jongleurs, c'était des pitres qui venaient faire des acrobaties ou raconter des balivernes dans les festins, dans les fêtes des seigneurs, des grandes familles. C'était des amuseurs publics, bien sûr, qui ne parlaient jamais de Dieu. Et ils proféraient, au contraire, ils étaient très mal vus des clercs, parce qu'ils proféraient souvent des paroles lascives ou racontaient des histoires égrillardes. Alors, dire « nous sommes les jongleurs de Dieu », les gens les regardaient bizarrement, disant « qu'est-ce que c'est que ces types qui associent deux notions qui, non seulement, n'ont rien à voir, mais sont souvent contradictoires ». Mais il dit « nous sommes les jongleurs de Dieu parce que nous voulons vous intéresser, vous distraire, et ce faisant, vous montrer que vous êtes en train de rater votre vie parce que vous faites ci ou vous faites ça, ou vous ne faites pas ci ou vous ne faites pas ça ». Oui. Donc, se présenter en jongleur de Dieu, c'est se présenter... Justement, je disais tout à l'heure, l'humilité, c'est refuser toute position de surplomb. On ne peut pas se présenter en prédicateur qui sait par rapport à des gens qui ne savent pas ou qui est bon par rapport à des gens qui sont mauvais, mais en disant, écoutez, nous, on pense que vivre selon l'Évangile, c'est comme ça, et on va vous montrer comment il faut faire, pourquoi, etc. Et il se mettait à chanter parce que la prédication franciscaine était une prédication qui s'accompagnait de musique, de viol, lui-même jouait de la viole, de la sitar, etc. Et donc, plus qu'un sermon, ça pourrait s'apparenter à une sorte de happening qui devait conduire progressivement les auditeurs de la stupéfaction à la conversion. Voilà, donc, cette dernière forme d'humilité, tout cela nous montre, vous voyez, la richesse de cette notion que, apparemment, en première vue, semble un peu insignifiante ou avoir un contenu un peu faible, et qui joue un rôle majeur, en tout cas, dans l'expérience franciscaine. Merci de votre attention.